chercher le homard. Nous sommes proposés et animés par Christophe Abramowski. Les Chinois, ils l'entendent.
Bonjour, sous le rocher, le homard, mon cher ami Michel, c'est ainsi que ça s'appelle cette émission, sous le rocher, le homard, c'est une émission qui parle des enfants, des ados et de leurs parents. Vous nous retrouvez un lundi sur deux, le deuxième et le quatrième lundi de chaque mois, en direct de 19h à 20h et le mardi suivant de 11h à 12h, donc pour la rediffusion. Vous pouvez aussi nous écrire sous le rocher@gmail.com. Voilà, ça c'est l'adresse où vous pouvez nous écrire. Et vous pouvez aussi retrouver nos émissions sur le blog suivant, sous le rocher, en un seul mot, .canalblog.com, sous le rocher.canalblog.com. Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Ainsi parlait Platon au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Au XXIe siècle, la tyrannie s'installe parfois dans nos foyers. Elle est l'œuvre de nos enfants. Devenus rois des lieux, ils prennent peu à peu la place du tyran dans la famille. Enfants rois, ils sont des enfants proies de la société de consommation. Ils sont prescripteurs d'achat et la cible privilégiée des publicitaires en tout genre. Enfants tyrans, ils sont aussi victimes d'un malaise éducatif. Dans la toute-puissance, au centre de toutes les préoccupations, ils n'ont pas les balises et les repères suffisants pour naviguer dans la vie. Ces enfants-là sont dans la souffrance. L'évolution de la famille joue-t-elle un rôle important dans la genèse de ces enfants rois? Existe-t-il une bonne autorité? Quelles sont les règles à mettre en place? Faut-il sanctionner? C'est avec notre invité que nous allons tenter de répondre à ces quelques questions et à bien d'autres. Et nous recevons Sylvie Compaillot, qui est directrice de l'école des parents de Toulouse et psychologue. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Également fidèle au poste, toujours là, notre chroniqueur de l'absolu, de l'éternel, qui viendra nous rejoindre à la fin de l'émission, c'est Jeff, pour sa sortie d'école, c'est le Jeff.
Bonsoir.
Et je vous rappelle, encore une nouvelle fois, que les émissions sont sur le blog. Allez sur le blog, vous trouverez plein d'informations, également la bibliographie de chacune de nos émissions, c'est sousle-rocher.canalblog.com. Sylvie Compaillot, donc vous êtes la
directrice.
Compagnon.
C'est catalan.
Ah ben oui. Alors, si c'est catalan, il faut bien prononcer. Ah oui, compagnon, c'est vrai. Oui. J'avais oublié le N, pardon. Ouh là là. Donc vous êtes la directrice de l'école des parents et des éducateurs.
Oui.
En deux mots, qu'est-ce que c'est que cette école des parents et des éducateurs?
Eh bien, l'école des parents, c'est une association qui est, bon, dont une des missions principales, c'est soutenir les parents dans ce rôle de parents. Donc, face à ça, on propose aux parents la Bulle Rose, qui est un lieu d'accueil pour les parents avec leurs jeunes enfants de moins de 4 ans, où les parents peuvent se rencontrer, échanger avec d'autres parents et avec leurs enfants. Donc, ça va être pour différentes raisons que les parents vont pousser la porte de ce lieu. Mmh. Ensuite, on a également...
La Bulle Rose, c'est une des maisons vertes de voilà. François Dolto.
Tout à fait. Ce sont des maisons vertes. Et l'intérêt, c'est ce qui nous paraît important, c'est que les parents puissent partager leur expérience de parents tranquillement. Pour d'autres, ça peut être aussi simplement sortir de chez soi à un moment donné avec un jeune enfant. Et ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas très bien où aller quand on a un jeune enfant. Mmh. Voilà, donc il y a des accueillants qui sont là tous les jours. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une inscription quelconque, on pousse la porte tout simplement. Voilà.
Et également, il y a d'autres structures à l'intérieur de...
Oui, c'est-à-dire toujours dans cette idée de soutenir les parents, nous avons un service de consultation où les parents peuvent venir justement à un moment où ils se sentent soit débordés par leurs enfants, soit inquiets face à un symptôme, soit pour des différentes raisons, parce que l'enfant les préoccupe à un moment donné de la relation, que ce soit des jeunes enfants ou des adolescents et même des jeunes adultes. À un moment donné, on peut avoir besoin de trouver un endroit pour réfléchir à cette place de parent.
D'accord. Voilà. Et il y a aussi la médiation familiale. Présente. Oui. J'essaie de faire le tour un petit peu de tout oui. ce que vous faites dans cette,
Également, dans cette école des parents. Voilà. Également, on a un service de médiation familiale qui s'adresse aux couples qui veulent se séparer ou qui sont séparés et qui ont besoin justement d'un accompagnement pour réfléchir à comment organiser cette séparation. Avec toutes les questions concrètes qui se posent, qui va garder l'enfant, comment, avec quel budget. Et donc l'idée, c'est justement de pouvoir ensemble définir des accords qui pourront durer dans le temps, hein, et qui pourront toujours, avec l'idée toujours que les parents, que le couple reste chacun parent face à leurs enfants. C'est ça l'objectif aussi.
D'accord.
Voilà.
Et vous êtes aussi psychologue.
Oui, tout à fait.
Et c'est, j'allais dire un petit peu à ce titre-là que vous venez aujourd'hui pour parler de ces enfants rois, de ces enfants tyrans aussi. Hein. La presse se fait quand même l'écho très régulièrement de cette problématique des enfants tyrans, des enfants rois. Et juste pour donner un chiffre un peu rapide, hein, c'est que plus de 50% des décisions d'achat dans un couple sont motivées par les enfants. Par l'enfant. C'est l'enfant qui devient le prescripteur de la consommation de la famille. Donc, on voit bien qu'effectivement, hein, dans le cadre du marketing, c'est l'enfant qu'il faut viser, c'est la cible privilégiée. Mmh. Et cet enfant, il devient finalement celui qui va décider des achats. Vous les voyez, vous, ces enfants-là
Mais je crois que les publicistes ont bien compris, en fait, hein, que l'enfant, finalement, que dans notre société aujourd'hui, l'enfant avait une place bien particulière et que, justement, c'était un partenaire, souvent, dans le choix et qu'on passait par lui. On lui demandait son avis avant d'acheter. Donc, je crois que ça fait partie du fonctionnement actuel de la société. Et je crois que ça s'explique, et ça s'explique assez facilement, parce qu'en fait, si on regarde un petit peu, l'évolution de la famille, il est sûr que beaucoup de choses ont changé. Notamment le fonctionnement du couple, les attentes du couple. Je veux dire que le couple sait que la question de la longévité du couple, la question de la soirée, elle est présente en fait, hein, pour le couple. On ne sait pas si on va durer dans le temps, hein. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le pourcentage aussi de gens qui décident de vivre en couple.
Mais ça veut dire qu'il y a une urgence.
Ça veut dire que on sait que le couple peut-être ne durera pas dans le temps, mais l'enfant, lui, la place de l'enfant, elle est devenue quelque chose de très précieux.
C'est ce qui fait le lien dans le couple, finalement.
Tout à fait. Ça veut dire que
qu'il ne dure pas.
Voilà. On restera parent quoi qu'il arrive.
Oui.
Hein? Donc, je pense que ça, à mon avis, c'est un premier point important.
C'est-à-dire
que
ça lui donne une place, du coup, beaucoup plus centrale qu'il ne l'avait auparavant.
Alors ça, c'est le premier point, je pense, qui est quand même très, très important. Il y a quelque chose qui me paraît aussi important, c'est aussi l'évolution des connaissances sur l'enfant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup quand même, on a beaucoup évolué dans la représentation qu'on a de la place de l'enfant, puisque maintenant, quand même, on met en avant que l'enfant, on a commencé par parler que l'enfant était une personne, on met quand même en avant la nécessité de l'épanouissement de l'enfant.
Alors, hein, l'enfant est une personne, mais en même temps, c'est pas n'importe quelle personne, c'est une petite personne.
Voilà.
C'est-à-dire
que
c'est pas une personne au sens de l'adulte.
Voilà. Et c'est peut-être là où il y a une confusion, d'une part, mais il n'empêche qu'il y a quand même pour les parents l'idée d'éduquer l'enfant, mais avec cet épanouissement, ce qui n'est pas évident, en fait. Hein, comment, si l'épanouissement est l'objectif final, c'est compliqué aussi justement, peut-être, d'éduquer un enfant pour les parents d'aujourd'hui, en fait.
Sylvie, voilà. Compagnon, je l'ai bien dit cette fois-ci.
Oui, très bien.
On essaiera de définir, de voir un peu la notion d'enfant tyran, un peu quelles sont la définition qu'on pourrait y mettre, parce que c'est un peu complexe. Mais je crois savoir que vous aimez bien le reggae. Alors je vous propose un titre de Billy Rastaquer et ça s'appelle La Mère Michel.
Say qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père du sucre qui lui a répondu. Mais non, la mère Michel Boucha n'est pas perdue. Sur l'air de la tra-la-la-la, sur l'air de la tra-la-la-la, sur l'air de la tra-la-la-la, elle rira. Sur l'air de la tra-la-la-la, sur l'air de la tra-la-la-la, sur l'air de la tra-la-la-la, elle rira. Elle tra-la-la. Mon chat n'est pas perdu, vous l'avez retrouvé. C'est le père du sucre qui lui a répondu. Donnez une récompense, votre chat vous sera rendu. Rendez-moi donc mon chat, vous aurez un baiser. Mais le père du sucre, qui n'en a pas voulu, lui dit, pour un lapin, votre chat est vendu. Qui crie par la fenêtre et qui le lui rendra. C'est le père du sucre qui lui a répondu. Allez la mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Sur la racale, sur la racale, sur la racale, elle rira. Sur la racale, 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 sur la racale.
Sous le rocher, le homard. Une émission proposée et animée par Christophe Abramowski.
Et après ce joli morceau de musique, la mère Michel, c'était du ska, hein, pas du reggae, mais du ska. Bon, voilà, hein, écoutez, hein, bon, tout le monde se trompe. Hein. Nous revenons sur notre sujet, les enfants tyrans, avec Sylvie Compagnot, directrice de l'école des parents et des éducateurs et psychologue. Sylvie, nous en étions à essayer de cerner un petit peu la notion d'enfant tyran, qui est un peu complexe quand même, d'enfant roi, d'enfant tyran. D'abord, est-ce que c'est la même chose, enfant roi et enfant tyran, dans l'acception qu'on a habituellement?
Je ne sais pas si c'est la même chose. Ce qui se passe, c'est que je crois que l'enfant roi devient tyran, et souvent un tyran pour ses parents, en fait. Hein, parce que je crois que justement, là, je ne sais pas si on peut trouver une définition. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'enfant roi ou l'enfant tyran est plus à une place d'enfant, hein, c'est-à-dire que soit il peut devenir le chef de la famille, c'est-à-dire que finalement il devient celui qui décide pour tout le monde. Mmh. Et donc on le voit, on voit arriver des parents dans consultation et qui on se rend compte que finalement c'est un enfant ça peut être un enfant de 5 ans qui décide ce qu'on fait, qui décide sur les occupations des parents, les vacances, etc. Donc
vous les voyez aussi dans les comportements quand vous recevez les parents. La dernière fois vous m'avez expliqué que il y a une ligne et les
c'est à la bulle rose, ça.
Voilà, la bulle rose. Ah, oui. Est-ce que vous pouvez discriminer là des comportements un peu singuliers, justement?
C'est-à-dire que les enfants, quand ils viennent, quand on les reçoit, que ce soit dans le cadre de consultation ou que ce soit à la bulle rose, ils vont tout de suite mettre en avant enfants ce qui se passe. Hein. Ils vont nous montrer, parce qu'ils sont assez étonnants, ils vont tout de suite nous montrer comment ça se passe avec leurs parents. Mm-hmm. C'est-à-dire que d'emblée, ils vont avoir une attitude qui va nous étonner. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont ou provoquer le parent. Là, à la Bulle Rose, il y a un lieu qui pour les tout-petits, il y a une ligne bleue où les enfants ne doivent pas aller avec un trotteur ou un engin qui pourrait être dangereux pour les bébés. Donc, en fait, il va, par exemple, essayer, en regardant l'accueillant et le parent, de passer la ligne pour voir comment les parents font, qu'est-ce qu'ils font.
Ils testent.
Voilà. Ils testent, c'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que chez le jeune enfant, en fait, les règles ne sont pas intégrées d'emblée, donc il va essayer de voir. Moi, l'enfant, il est sous la pulsion de vie. Il a toujours envie, il a tout de suite envie de tout de suite. Et en fait, il va regarder pour voir est-ce que son parent va pouvoir l'arrêter, parce que lui, il peut pas s'arrêter. Et si le parent ne peut pas l'arrêter, ben lui, il va aller de l'avant, l'enfant. Hein. Donc, je veux dire que l'enfant qui est dans ses positions de roi, c'est l'enfant effectivement qui est dans une toute puissance, hein, et qui n'est que face à sa propre puissance.
Tout est permis.
Ben oui, enfin tout est permis, puisqu'en fait on ne le limite pas, donc ben il va aller tout le temps de l'avant, il va tout le temps essayer d'avoir plus, pourquoi il s'arrêterait? Si on, il ne va pas s'arrêter, lui. Alors, c'est vrai que ce sont des enfants, quand on parle de la définition, on pourrait dire que ce sont des enfants qui sont souvent anxieux. Mmh. Qui sont souvent anxieux parce que justement comme ils n'ont pas de limites, effectivement ça a un effet anxiogène sur eux, hein, oui. Parce que ça ne les rassure pas. Je crois que c'est peut-être la fonction de parent, c'est de protéger l'enfant, et là en fait il n'est pas protégé de lui-même, en fait, hein,
oui, c'est de lui-même. Ce que vous voulez dire, c'est que de fixer des règles et de mettre en place des repères de vie collective, de vie commune, c'est finalement ça protège l'enfant.
Ben oui.
Ça le rassure.
Tout à fait. Hein? Tout à fait.
Mais quand on a des enfants, les enfants font des colères, des caprices, souvent ils sont dans quelque chose de non. Est-ce qu'on peut vous. Quelles sont les prémices? Est-ce que c'est ça les prémices de la tyrannie?
Mais je crois que. Je crois pas que c'est les prémices de la tyrannie, c'est que c'est le fonctionnement de l'enfant. L'enfant, de toute façon, il a envie de grandir. Donc, mm-hmm. Il a envie de faire tout seul, il a envie de tout, etc. Donc, ça fait partie du développement normal de l'enfant, en fait, hein, de vouloir.
La colère, elle est normale.
Donc, la colère, je veux dire que, bien sûr, on lui refuse qu'il y ait une colère, c'est tout à fait normal. La difficulté pour le parent, c'est la lecture de cette colère. C'est-à-dire mm-hmm. que, je crois qu'il y a aussi l'idée pour un parent que la relation doit être toujours sans conflit, elle doit être et l'enfant qui fait comme si c'était un échec, en fait, quelque part pour un parent, hein, l'enfant qui un échec parce que il ne le comble pas, il veut quelque chose, il faut lui dire non, c'est compliqué, ouais. Il faut lui dire non, donc pour le parent c'est vécu comme un échec. Et puis il y a la grande peur, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce qu'on voit apparaître, c'est la peur chez le parent, la peur de ne pas être aimé de son enfant. Oui. Et ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez étonnant, parce que ça devrait être l'inverse. C'est l'enfant qui devrait avoir peur de ne pas être aimé par les parents. Mais on est souvent dans une situation où c'est le parent qui a peur de perdre l'amour de ses enfants.
Mais comment on peut expliquer ça, justement? C'est vrai que c'est surprenant, ce sentiment des parents. Pourquoi les parents ont cette crainte-là? D'où elle vient?
Ben, je pense que c'est je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que comme ils ont une grosse attente de cette relation avec l'enfant, elle doit aller quelque part. Il y a une attente qui est très forte, donc il y a l'idée d'être comblé, en fait, par rapport à l'enfant. Hein, c'est-à-dire que l'enfant nous comble, c'est-à-dire qu'il nous renvoie quelque chose de positif. Hein. L'enfant qui vous renvoie.
Il est une projection de nous-mêmes, alors.
Oui. Hein, il y aurait l'idée qu'il faudrait, alors que justement, je crois que éduquer un enfant, c'est pas cet ordre-là. Éduquer un enfant, c'est l'aider à se développer. Mmh. Et c'est pas en lien, comme s'il devait nous rendre de l'amour, quoi, qu'on était redevable de quelque chose. Donc, et c'est ça, quelquefois, où je pense que la place qu'a pris l'enfant, et on le voit quelquefois exacerbé dans des situations comme par exemple des séparations, ou alors justement, justement le manque en fait souvent de l'autre ou la difficulté fait que l'enfant, alors là aussi peut prendre une place qui n'est pas une place d'enfant, hein, une place de confident, une place de partenaire.
Oui, voilà. on rencontre ça souvent dans les familles monoparentales, et souvent ce sont les mères qui ont les enfants, et dans la relation mère-fils. C'est quelque chose qui peut être exacerbé encore plus, quoi.
Oui, mère-fils, tout à fait. Je crois que dans cette, je crois que une des rôles en fait du père, c'est de séparer la mère de l'enfant. Enfin, ça fait partie de la fonction paternelle en fait. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de tiers en fait entre la mère et l'enfant, ils peuvent vivre tous les deux dans l'illusion. Hein. La mère dans l'illusion que cet enfant finalement, elle va pas prendre d'autres conjoints. Finalement, elle va réussir à vivre avec cet enfant et ça sera mieux pour l'enfant et mieux pour elle, etc.
Et du coup, l'enfant devient tyrannique par rapport à ça.
Eh bien, exactement. C'est-à-dire qu'il devient tyrannique. À plusieurs raisons.
Il devient exclusif.
Non seulement il devient exclusif, c'est-à-dire qu'il prend une place et il est dans une place, je dirais, d'égalité, hein, de réciprocité. C'est-à-dire qu'effectivement, il va décider ce qu'il veut, il ne va pas vouloir. Et on voit combien de femmes même qui s'interdisent en fait d'avoir une relation ou d'amener ce compagnon qu'elles ont en cachette quelquefois et qu'elles n'osent pas amener à la maison de peur de cet enfant qui va refuser cette place à cet homme. Ouais, c'est quelque chose qui peut se voir en fait.
Et est-ce que vous en discutez avec les enfants de l'hypothèse qu'un tiers vienne vivre dans la maison?
Mais c'est-à-dire qu'il nous arrive fréquemment, dans des cas de consultation, où on va recevoir, parce qu'il y a des problèmes avec l'enfant, la mère se sent débordée à un moment donné, et on va prendre l'enfant quelquefois seul, et on va lui expliquer, on va le remettre à une place d'enfant. Ouais. C'est-à-dire que, quelquefois, ça peut être très violent pour un enfant. Il y a des enfants qui ne vont pas vouloir entendre dans un premier temps. On les verra qui se bouchent les oreilles, ou qui ne veulent pas entendre physiquement, une espèce de refus d'entendre. Et on va être obligé d'être très clair là-dessus, en fait, hein, de lui dire qu'il ne remplacera pas, que sa mère ne lui appartient pas, en fait. Hein, parce que c'est un peu, c'est ça qui manque à certains enfants quand il y a des séparations quelquefois, c'est qu'ils se rendent compte que quelqu'un leur dise que leur mère ne leur appartient pas.
On est dans un sentiment de possession.
Exactement, ouais. Exactement. Et je crois que c'est là la place du père qui est plus compliquée quand il y a des séparations et quand il n'y a pas de tiers qui rentrent dans cette relation. Parce que je crois qu'en même temps, l'enfant, il faut bien voir que l'enfant, quel que soit l'âge, il pense que tout ce qui arrive à la famille, il y est pour quelque chose en plus. Hein. C'est-à-dire qu'il pense, l'enfant, il va endosser en fait ce qui se passe. Alors il suffit que dans la séparation du couple, il y en ait un qui souffre en fait, de la séparation. Donc il va en plus, je veux dire, jouer ce rôle de vouloir combler. Et là aussi, on va être obligé, dans des cas de consultation, de remettre à l'enfant à sa place en lui disant qu'il n'a pas à faire ça, que ce n'est pas ça son rôle, que lui, il faut qu'il s'occupe de ses copains, qu'il joue, qu'il s'occupe de lui, et non pas de sa mère ou de son père, en fait. Et c'est quelque chose de très fréquent, des enfants qui endossent des choses qui ne leur appartiennent pas. Voilà.
Tout à l'heure, je parlais de souffrance, mais effectivement, dans ce cas-là, les enfants sont dans une très grande détresse, hein, une très grande souffrance.
De toute façon, les enfants qui ont cette place sont en grande souffrance. D'abord, je veux dire qu'au niveau de leur développement psychique, non seulement ils sont en souffrance sur le moment, parce que je crois que quand on est cette anxiété que ça développe chez eux, c'est une souffrance. Et puis en même temps, dans leur développement psychique, puisqu'en fait, comment se construire en fait, hein, face au fait que justement, je dirais que ces enfants qui ne sont pas une place d'enfants, mais comment ils vont pouvoir être des adultes puisqu'ils sont ni des enfants ni des adultes à ce moment-là. Donc je crois que c'est important justement pour des parents d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi il laisse les enfants prendre cette place? Et ça, je crois que c'est intéressant de pouvoir se questionner par rapport à ça.
Eh bien, on va marquer une deuxième pause musicale avec cette fois-ci Manu Chao. Et je crois que le morceau, c'est « Mala Fama ». Thank you.
Sous le rocher, le homard. Une émission proposée et animée par Christophe Abramowski.
Sous le rocher, le homard.
Et aujourd'hui, nous parlons des enfants tyrans, des enfants rois, avec Sylvie Compagno, directrice de l'école des parents et des éducateurs de Toulouse et psychologue. Sylvie, ces enfants tyrans, ils sont vraiment dans la toute-puissance.
Tout à fait.
Et qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de toute-puissance? Parce que c'est quand même assez complexe.
Ben, la toute-puissance, c'est, ben, ça, je crois que ça l'exprime bien, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui les arrête. Je crois que c'est vrai que si chez le bébé, on a essayé de le combler, je crois que c'est important de combler un bébé, hein, c'est-à-dire de lui éviter des frustrations chez un bébé. On va tout de suite lui donner le biberon, on ne va pas le faire attendre. À mesure que l'enfant grandit, on va y mettre des frustrations. C'est-à-dire que petit à petit, on va faire attendre le biberon parce qu'on va penser qu'il est capable d'attendre le biberon. Et puis petit à petit, on va éduquer, c'est ça. Hein, c'est-à-dire, c'est reporter les choses pour que l'enfant, justement, ne soit pas dans une toute-puissance. Dans une toute-puissance, c'est-à-dire sous l'effet complètement de cette espèce de pulsion de vie qui le déborde.
Il y a quelque chose de presque mystique dans la toute-puissance où l'individu se sent presque un dieu omnipotent, quoi, qui a tous les pouvoirs. C'est ça l'idée de la toute-puissance.
Oui, mais parce que
chez l'enfant, c'est ce qu'il va ressentir, quoi.
Oui, il est dans une espèce d'illusion. Comme il a été une illusion, en fait, que ses parents étaient... Il a eu cette illusion, l'enfant, hein, que sa mère était une fée, qu'elle pouvait tout lui donner comme il voulait, quand il voulait. Après, ben, il pense que ça continue. Oui. C'est-à-dire qu'il reste dans ce même état alors qu'il grandit. Il est toujours dans le même état. C'est-à-dire qu'il pense qu'effectivement, elle peut toujours lui dire oui. Et son père et sa mère peuvent toujours lui donner tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut.
Oui.
Donc il reste, c'est-à-dire c'est ça que tout à l'heure, l'enfant ne grandit pas en fait. On croit qu'il grandit parce qu'on le met à une place, on disait tout à l'heure d'adieu, c'est-à-dire de décideur. Mais en fait, au niveau psychique, il reste un tout petit. C'est-à-dire qu'il reste comme un tout petit, qui ne peut pas...
Finalement, il est comme écartelé,
oui,
entre deux états, quoi. Cet état d'adulte...
Mais c'est un faux, adulte. Ouais. C'est-à-dire qu'on lui donne tous les pouvoirs, mais en même temps, il reste comme un tout petit, en fait. Hein, parce qu'il ne peut pas s'arrêter, il ne sait pas se limiter, il ne peut supporter aucune frustration. Et c'est ce qui se passe après, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont des difficultés à l'école, parce qu'ils ne vont pas être capables d'écouter les consignes, de les intégrer, ils ne vont pas être capables de rester sur leur chaise, ils ne vont pas être capables d'écouter, ils ne vont pas être capables... Bon, et ce sont des enfants qui sont en souffrance, parce qu'en fait, ils sont complètement tout sur cette espèce de pulsion qui n'est pas maîtrisée, ils ne peuvent pas se maîtriser.
Mais alors, pourquoi les parents, finalement, mettent les enfants dans cette dynamique-là? Parce que ça vient des parents, de toute manière.
Ben, c'est-à-dire, les parents, ça veut dire...
Sans chercher à culpabiliser,
oui,
bien
entendu. Oui, je trouve qu'il n'est pas question de culpabiliser, mais peut-être d'essayer de comprendre qu'il y a un tissage entre deux histoires. Il y a l'histoire des parents et l'histoire de l'enfant. Et ce qui se passe, c'est que ce qui est intéressant, et c'est ce qui se passe dans la consultation, on essaie de réfléchir à qu'est-ce qui fait dans leur histoire que finalement ça se passe comme ça. Ce qui se passe, c'est que souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a un parent qui a vécu un père autoritaire. Hein. Mm-hmm. Donc, quand il est devant son enfant, en fait, il est aussi l'enfant, c'est-à-dire qu'il voudrait avoir devant lui le père que lui n'a pas eu, c'est-à-dire celui qui soit compréhensif. Donc, en fait, ils sont en difficulté pour mettre, dès qu'ils mettent un repère, dès qu'ils mettent une limite à l'enfant ou qu'ils le frustrent, revient dans leur tête ce parent qui était trop autoritaire. Donc en fait, c'est là où on peut dire
qu'il y a... C'est une réaction, quoi. Ça peut être une réaction.
C'est-à-dire qu'ils ont besoin de se faire du bien. C'est-à-dire ils ont envie de se materner, eux, les parents. Ils ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'en voulant... ne pas être ce parent dont a besoin l'enfant, parce que leur enfant qui est devant eux, lui, il a besoin d'un père qui s'affirme, qui affirme sa place de père ou de mère. Et c'est pas ce qui se passe, c'est qu'ils sont, eux, devant je dirais, leurs parents, c'est-à-dire qu'ils sont l'enfant, c'est-à-dire qu'ils se trompent. Ils mm-hmm. sont devant le, et ils essaient, de réparer leur histoire à eux. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont envie de se faire du bien. Et quand ils donnent à l'enfant, quand ils lui disent oui, c'est eux qui reçoivent. C'est-à-dire, eux, ils se font du bien. Mais l'enfant, ce n'est pas ce dont il a besoin, parce que l'enfant, oui. il n'a pas du tout en face de lui ce père-là. Mmh. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que dans les consultations, c'est ce qu'on essaie de comprendre, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire qui fait que c'est si difficile pour un parent, à un moment donné, de dire non. Qu'est-ce qui se passe pour lui? J'entends quelquefois les parents me dire, oh, quand je dis non, j'ai l'impression que je suis maman qui est en train de... Il y a une espèce de... Il y a cette espèce de peur, tout d'un coup, d'être quelqu'un d'autre, quoi, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui revient sur le devant de la scène, qui empêche le parent. C'est pour ça que quand il est dans la consultation et qu'on réfléchit un petit peu à l'histoire, qu'est-ce qui se passe pour eux, comment ça s'est passé pour eux, leur histoire, comment a été leur relation, et bien à ce moment-là, il y a quelque chose qui se dénoue quelquefois et à ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils vivent, en tout cas, ils ressentent les choses autrement dans la relation avec leur enfant.
Ils arrivent à comprendre
C'est comprendre, c'est ressentir, c'est-à-dire que d'un coup, il y a une émotion qui ressurgit d'eux, de leur histoire, tout d'un coup, ils se voient enfants, ou ils racontent une petite anecdote sur des éléments, et quelquefois, ça dénoue, parce que l'objectif, c'est ça, c'est de dénouer le nœud qu'il y a. Il y a un nœud, à un moment donné, qui fait que ça devient... C'est impossible pour un parent, il a l'impression qu'il est vraiment mauvais, qu'il est méchant, et enfin, il y a quelque chose qui se passe, qui fait qu'il se trouve en difficulté pour se positionner à un moment donné. Voilà.
Et c'est possible de refaire basculer la relation, finalement, quand l'enfant est un enfant tyran, etc. C'est possible de remettre les choses
tout
en place.
Tout à fait. Je crois que c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait des lits, je ne sais plus c'était qui disait que tout se joue avant 3 ans. Donc je crois que jamais les choses sont jouées à n'importe quel âge. Moi, j'ai vu des adolescents, je crois que quand le parent se sent légitime dans sa place, quand je crois que qu'il est convaincu de ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense et c'est ce qu'il faut. Je crois qu'il y a plus, l'enfant est tout de suite, il adhère, en fait. Le problème, c'est quand le parent, il doute de lui, il doute de ce qu'il dit.
Mais ça doit être drôlement compliqué aujourd'hui avec toutes ces séparations, tous ces couples recomposés, décomposés d'abord décomposés et parfois recomposés, que chacun retrouve sa place et sa légitimité. Parce que j'imagine que c'est les ruptures entraînent des postures, entre guillemets, d'illégitimité chez les individus.
C'est-à-dire, oui, ça peut, mais...
Pas systématiquement.
Non, il peut y avoir l'idée que en fait, chez des parents, que l'enfant souffre, comme il y a séparation, il serait le pauvre malheureux, donc il faudrait en rajouter pour le protéger. Mmh. Alors que l'enfant, il a accepté, c'est très dur. Je crois que la séparation est une souffrance pour l'enfant, il ne faut pas s'en cacher. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je crois que si les parents sont au clair sur leur positionnement, sur la place de l'enfant, ça va prendre du temps, mais ça va se faire, je crois. Le problème, c'est quand dans les parents, il y a l'enfant devient l'enjeu de leur conflit, hein, où ça continue, où en fait. où on critique l'autre parent, où l'enfant est obligé de supporter en fait des discours qui dévaluent l'autre parent. Et ça, c'est compliqué pour l'enfant. Ça devient insupportable d'entendre critiquer l'autre parent. Il va être pris dans ce qu'on appelle le conflit de loyauté, c'est-à-dire qu'il aura l'impression quand il est avec papa qu'il trahit maman et quand il est avec maman qu'il trahit papa. Et ça devient terrible. Mmh. Et c'est comme ça qu'on voit des adolescents qui veulent plus aller chez un des parents parce que c'est plus tenable en fait. Alors qu'en fait c'est pas qu'il veut pas aller voir le parent, c'est qu'ils sont tellement tiraillés, c'est plus insupportable. Voilà. Ça peut être douloureux pour l'enfant en fait, effectivement. Mais je crois que c'est aussi comment chaque parent va se positionner par rapport à cette séparation, par rapport à ses enfants, etc. Je crois qu'on ne peut pas généraliser les mm-hmm. situations.
Vous savez, Sylvie, dans cette émission, il y a une tradition, il y a la chronique de Jeff qui arrive. Et là, on arrive à l'heure de la chronique de Jeff, après une petite virgule sonore. Alors, Jeff, c'est votre chronique. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'allez-vous nous raconter?
C'est les vacances. Ouais. Alors j'ai l'impression que c'est souvent les vacances quand même. La dernière fois c'était grève. On a eu vacances. Plus souvent de l'école. non. Là ce coup-ci, décidé de faire un bilan à mi-parcours d'année. Ah. Voilà. Donc j'ai trois thèmes à aborder: le cahier de chant, les langues et les copines.
Très important,
où l'on découvre que dans la classe il n'y a que des copines. Ah. On nous avait promis donc un problème de langage en début d'année, on l'a.
Voilà. Bonne nouvelle.
Au bout de 4 jours, je rappelle ma première chronique, c'est on nous avait dit que qu'elle aurait besoin d'une orthophoniste, donc ça se confirme. Elle sait presque prononcer son prénom. Elle a quand même bientôt 5 ans. Donc on hésite encore pour l'orthophoniste. La dernière émission, à votre place, il y avait une orthophoniste. Donc là, ça m'a presque convaincu. Mais en même temps, elle commence à parler. Elle prononce son prénom plus ou moins bien. Elle a des notions d'anglais. Elle parle anglais, elle fait right, 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 right. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est au programme de la maternelle, mais il y a des notions d'anglais. Elle chante en occitan. Le secanto, elle le connaît au moins les deux premières strophes. Et oui, pour vrai. Donc, on cherche une ortho. Je lance un appel. Si on pouvait retrouver une ortho en anglais, en occitan ou en français, ce serait pas mal, en fait. Je crois que c'est en français qu'elle sera évaluée. Donc, voilà, ça, c'était les langues. Donc, les problèmes se confirment. Donc, tout va bien. Le cahier de chant. Donc là, ça, c'est une autre histoire. Le cahier de chant, on l'a perdu. Au retour des vacances de la Toussaint, on ramène tous les cahiers et il nous dit « Et le cahier de chant ?» Et moi, je n'ai jamais vu ce cahier de chant. Et je lui ai dit, donc il y a une petite guéguerre à un moment donné.
Depuis la Toussaint, quand même, il serait temps de s'en rendre.
Et donc, il me dit « C'est pas grave, on va en refaire un. » Et aux vacances de Noël, je fais « Alors, le cahier de chant ?» Il avait parfait. Je me suis dit « Mince, alors il nous a punis. On n'a pas le droit. Elle a plus de cahier de chant. » Donc, pas de cahier de chant. Aux vacances de février, donc, je fais « Vous pensez au cahier de chant ?» Pas de cahier de chant. Donc,
Est-ce que ça voudrait dire qu'elle chante mal?
Je sais pas, mais en tout cas, elle est punie.
Elle a aussi des problèmes de chant, voilà. Cet enfant.
Mi-année, donc on cherche une orthophoniste et on cherche un cahier de chant. Donc, moi, je vais chercher partout.
Juste à la population.
Je suis sûr qu'il n'est pas chez nous. Et donc on passe à la troisième point bilan, hein, les copines et les copains. Ah. Donc voilà. Alors là c'est les copines, c'est elle qui les choisit. On a une photo de classe. Nous on peut pas choisir les amis.
Non.
D'accord. Et si seulement on pouvait. Enfin bon. On a une photo de classe, donc on regarde les. Elle nous montre les visages sur la photo de classe. Alors elle c'est ma copine, lui c'est ma copine, lui c'est ma copine. Ah non ma chérie, on dit copain quand c'est un garçon. Non c'est ma copine. Ouais. Ok, alors c'est là qu'on repense. Chérie, vite fait, il faut qu'on absolument retrouve une ortho. Lui c'est pas ma copine et pourquoi il est pas gentil avec moi? Parce que c'est ça la maternelle, c'est la jungle, c'est la. Bon voilà, ça c'est le bilan. C'était trois petits points, comme ça, c'était pas vraiment une chronique. Trois petits points de bilan en cours d'année. Et j'oubliais quand même le point le plus important, c'est évidemment, elle adore l'école.
Bon, ben ça va. Et en plus, elle a fait du jardinage, alors.
Là, elle a fait du jardinage pendant les vacances pour l'occuper. Quand on a ça, pendant ce temps-là, le chat est tranquille.
Bon, très bien. Voilà, vous voyez, hein, c'est Sylvie Compagnon, hein, c'est ce qui se passe dans cette émission.
Parents,
oui, hein. Et être parent, c'est tous les jours qu'on apprend, hein, finalement. Hein. Et avec Jeff, on en apprend encore plus. C'était donc sa chronique sortie d'école, donc à mi-parcours, hein, scolaire. On en était, je crois, on s'interrogeait sur ces enfants rois, ces enfants tyrans. Ils sont la réponse finalement de quelque chose qui se passe au sein de la famille, et notamment des parents. Mais on parle aussi de la question de l'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'autorité et c'est quoi la nuance entre autorité et autoritarisme? On parle de ça aussi avec l'idée... que mes 68 auraient balayé d'un revers de main toute velléité autoritaire et que depuis on serait dans le laxisme le plus absolu et que Françoise Zolto serait coupable de nous avoir mis ça dans la tête.
Oui, je crois que Françoise Zolto, c'est vrai que on a dit beaucoup de choses sur ce qu'elle avait dit. Je crois que c'est vrai que c'était le moment aussi où elle essayait de dire que l'enfant, il fallait le respecter. Et je crois que peut-être ça a été... Il y a des choses qui ont été mal interprétées. Notamment, elle a parlé aussi de que l'enfant, c'était qu'il fallait lui parler. Et donc là aussi, on a dit qu'il fallait tout lui dire. Donc là aussi, ça n'a pas été... Tout n'a pas été toujours compris, tout ce qu'elle avait dit. Mais je crois que là aussi, la communication, elle a insisté sur cette fameuse communication. Et là aussi, on n'a pas toujours compris. On a un peu simplifié en disant qu'il fallait tout dire aux enfants, alors que je pense que justement, là encore, dans la place de l'enfant, il y a des choses à savoir pour son développement, puis il y a des choses à pas savoir. Mais pour revenir à l'autorité, je pense que c'est vrai que l'autoritarisme, ça serait peut-être, on pourrait... Ça rejoindrait une époque où en fait il y avait peut-être dans les couples il y avait peut-être le pouvoir de l'homme, le pouvoir sur la femme, la femme le pouvoir sur l'enfant. Enfin, il y avait peut-être la place de l'enfant. Je crois que l'époque du véritable autoritarisme, on dit que c'est avant les années 50 où en fait l'enfant avait droit à se taire en fait. Hein. Je crois que l'autorité aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour de l'autorité, je pense, et aussi autour de l'autorité pour... Qu'est-ce que c'est qu'être autorité pour un homme, pour une femme? En fait, il y a beaucoup de questions par rapport aussi aux
lignes. Les lignes ont bougé aussi,
voilà,
effectivement, avec
l'affirmation
de la femme dans notre société.
Tout
ça fait bouger les lignes, ça.
Oui, tout à fait. Alors, ce que je crois que... avant faire preuve d'autorité, c'est poser des limites, en fait. Hein, par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure, c'est ça. Et on a vu comme c'était une nécessité pour l'enfant. Alors après, il y a comment ça se gère, en fait, dans un couple aussi. Hein, parce qu'en fait, on est un couple parental face au conjugal. Hein, c'est-à-dire que je crois que les parents aussi, et c'est ce qui se passe souvent, se disent des choses. À travers la façon de se positionner, d'être en relation avec leurs enfants. C'est-à-dire que la mère va dire oui, dis-le, tu lui as pas dit ça, il faudrait que tu lui dises ça, ou dis-le lui comme ça, tu devrais pas lui dire comme ça, etc. Donc
il y a quand même une intellectualisation du rapport à l'enfant, ou une psychologisation qui est de plus en plus importante, et donc on s'y perd aussi dans tout ça.
Oui, je crois qu'il y a ça, mais il y a aussi, je crois, la représentation de ce que veut être l'autre, hein. C'est-à-dire que je crois que dans un couple, on a chacun une idée de ce qu'on voudrait, soit l'autre, comment il devrait se positionner face à l'enfant, en fait. Hein. Donc il y a ça qui est en jeu, c'est-à-dire qu'on demande à l'autre, et souvent l'autre n'est justement pas comme on voudrait qu'il soit. Et heureusement que l'homme est là, que dans un couple, les parents n'ont pas la même idée de leur place.
Oui.
On n'a pas les mêmes représentations de ce qui est important. Peut-être pour la mère, c'est très important que la chambre soit rangée. Pour le père, peut-être moins, ou inversement. Bon, et donc, en fait, il y a, au niveau du couple, il y a l'idée d'accepter, je dirais, les limites de l'autre. que c'est important pour lui ça, alors que ça n'est pas pour soi. Je crois que...
Mais l'enfant, il va s'engouffrer justement dans ces...
Oui, mais je crois qu'on peut...
Dans ces différences.
Oui, mais en fait, non. Moi, ce que je pense, c'est que ce qui est important, on peut pas faire croire à l'enfant qu'on est pareil, on pense pareil. Non, on pense pas pareil. Pourtant, ce qui est important, c'est pas désavouer l'autre. On peut très bien dire, bon, mais, moi, ça m'est égal, mais pour ton père, c'est important, donc tu le fais. Enfin, je veux dire qu'on n'est pas obligé d'avoir le même avis que l'autre. On peut dire à l'enfant qu'on n'a pas le même avis et en même temps, et c'est ça, l'enfant s'engouffre dans la mesure où il sent qu'il y a effectivement un problème. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire que finalement, en mettant son père contre sa mère, ou à travers ce qu'il va faire l'enfant, s'il y a une confrontation des parents, s'il y a une dispute, s'il y a un conflit, alors là, c'est sûr qu'il va. Alors là, c'est-à-dire que l'enfant va rajouter. C'est-à-dire qu'il sait très bien, parce que il y a l'idée, justement, de que ça porte les fruits si se rentre en conflit. Hein.
Oui. Et vous remarquez que les enfants, ces enfants-là, ils vivent dans des familles conflictuelles? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que, justement, ils sont issus de familles où il y a beaucoup de conflits, plus que d'autres?
Je pense que les deux, on peut imaginer une famille où, justement... pour pas vouloir de conflit, on dit toujours oui. Mmh. Hein, on pourrait imaginer ça. Ou finalement, dans un premier temps, ça va être insupportable. Mais on peut imaginer que c'est au contraire avoir peur du conflit qui mettrait l'enfant à cette place de roi. Mais on peut imaginer aussi que l'enfant finalement participe, je dirais, et notamment au moment de l'adolescence, ou participe, ou nourrisse en fait les conflits chez les parents. Hein, c'est-à-dire que s'arrange en permanence pour, je ne sais pas, ça va être pour les sorties, il veut sortir, la mère va être contre, le père pour, enfin, ou inversement, donc on va débattre là-dessus, on va finir par se disputer, tu donnes toujours raison, de toute façon, tu n'as pas d'autorité, etc. Il en fait qu'à tête. Bon, ça peut effectivement...
Et en même temps, ça met l'enfant dans une situation où il est à l'origine. D'abord, ça lui donne du pouvoir, et en même temps, ça le met aussi dans une situation, paradoxalement, où il peut se sentir mal à l'aise parce qu'il est à l'origine du conflit. C'est-à-dire qu'il y a les deux versants.
Il doit se sentir coupable. Il va en vouloir. C'est-à-dire qu'il va en vouloir. C'est ça où on voit chez ses enfants quelquefois tyranniques, qui deviennent violents verbalement, qui deviennent violents parce qu'en fait, c'est ça qui est compliqué souvent à se rendre compte pour les parents. C'est-à-dire qu'ils en veulent à leurs parents de ne pas les arrêter. Mmh. Ils en veulent, quelquefois, au père de ne pas le séparer de la mère, en fait. Ils en veulent, la mère. Donc, en fait, tout ça, ça va, effectivement, ça va se retrouver dans un langage qui peut être violent, dans un comportement très, très, très particulier qu'il va avoir vis-à-vis des parents. Hein. Donc, ça, c'est fait. Et je dirais que l'enfant roi, l'enfant d'année, que ça peut être terrible, en fait, au moment de l'adolescence. Parce qu'à ce moment-là, on voit des parents qui, sans s'en rendre compte, ont entretenu cet état-là. Et on va avoir des enfants qui deviennent violents et qui, finalement, les parents finissent par avoir peur de leurs enfants.
Oui, parce qu'on a aussi une violence physique, hein, à terme.
C'est-à-dire que, oui, tout à fait. Et et il nous arrive de voir des parents qui sont obligés de faire appel à la police parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs enfants.
Ah oui. J'aimerais qu'on conclue, il nous reste encore 5-6 minutes, mais sur les dangers vraiment que ça représente pour l'enfant lui-même. Les dangers, alors on va dire, ici et maintenant, et puis les dangers pour plus tard, quoi. Hein, quel adulte il va devenir, cet enfant-là, cet enfant roi. Je fais une parenthèse, c'est que j'ai lu un petit peu quelques éléments, et en Chine, avec l'enfant unique, il y a d'énormes problèmes qui sont en train de voir le jour sur justement ces enfants uniques qui deviennent des enfants totalement tyranniques parce qu'ils sont les seuls et ils portent finalement, c'est eux qui vont poursuivre la filiation et du coup ils deviennent des enfants qui ont été portés comme ça, comme des petits dieux, quoi. Ouais. Donc oui, quels sont les dangers de...
Ben, je crois qu'un enfant qui est dans une espèce de toute, qui reste dans une toute puissance, qui ne supporte pas la frustration, je veux dire que tout son développement va être perturbé. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Des difficultés souvent au niveau de l'école. C'est vraiment des enfants qui vont avoir du mal à s'intégrer dans un groupe. Certains enfants vont avoir du mal, dans les cours de récréation, ils vont se trouver en difficulté parce que finalement, créer les liens, c'est compliqué parce qu'à ce moment-là, faut accepter. Je veux dire, il va se rendre compte qu'une cour de récréation, les enfants entre eux, il ne va pas supporter de ne pas être aimé par certains, de pas avoir un certain copain, etc. Donc ça va être compliqué, la gestion va être compliquée. Ça va être compliqué d'accepter une règle quelconque. Donc la règle de l'école, la règle de sport, la règle... Bon, donc ce sont des enfants qui vont se trouver finalement... Ils vont s'exclure eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont devenir...
Oui, c'est ça, ils sont...
Voilà.
Ils sont rejetés.
Ils vont être... Le fait qu'ils soient comme ça insupportables, c'est-à-dire que les parents... Moi, j'ai vu en concession des parents qui ne pouvaient plus aller chez des amis. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aller chez quelqu'un parce qu'ils sont insupportables, parce que les gens ne les supportent plus, donc on ne les invite plus. Parce qu'on a des enfants qui pareil, pour avoir quelque chose, et ils vont user la vraie, toutes sortes de...
C'est aussi des enfants qui sont dans le besoin constant d'être dans un plaisir immédiat.
Exactement, donc ça les empêche de se socialiser, parce que je crois que éduquer un enfant, qu'est-ce que c'est? C'est lui apprendre à supporter les frustrations. Donc ce sont des enfants qui ne supportent pas les frustrations, donc la vie, ça ne les prépare pas, l'illusion de la vie, c'est-à-dire ils ont l'illusion que la vie, bon, ça va être que du plaisir tout le temps, donc ils sont tout le temps à cette espèce de quête effrénée, je dirais, et je veux dire que ça, la vie va être très compliquée pour eux.
Finalement, ils sont toujours dans la recherche d'un plaisir immédiat, mais de fait, ils sont donc dans l'insatisfaction permanente.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'un plaisir immédiat, il pense toujours à un nouveau. C'est même pas... Alors le problème, ce sont des enfants qui, justement, pour avoir du désir, il faut pouvoir, justement, à l'inverse qu'on croit, ne pas être satisfait. Parce que là, ce qui rend un enfant qui est créatif, c'est justement un enfant qui n'a pas tout de suite. C'est-à-dire s'il n'a pas ce qu'il désire, il va réfléchir comment il va pouvoir l'avoir. Donc il va être créatif. Donc un enfant, en fait, qui en permanence, on lui donne tout ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est dans un sentiment de consommation, c'est-à-dire qu'il est dans la consommation, il n'est pas dans du désir.
Oui, c'est ça.
Donc, puisqu'on ne l'aide pas à se projeter dans le futur.
Ça me fait penser au film L'être et l'avoir, où c'est finalement, il est toujours dans l'avoir, quoi. Hein, c'est ça.
Et tout à fait.
Mais c'est aussi notre société de consommation qui
construit ça. C'est pour ça que les publicistes ont bien compris le fonctionnement... De l'enfance, en fait. Hein, et je veux dire que c'est l'enfance, c'est ça. Si aider un enfant à se développer, c'est ça, je veux dire. Hein, c'est quand même le rôle du parent. C'est pas justement le combler et le rassasier, en fait. Hein. Faut pas être complètement rassasié pour avoir envie d'avancer, en fait. Et c'est ça qui est compliqué pour des parents qui eux ont manqué de choses et ont envie de combler leurs enfants.
Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et ça risque faire des adultes qui seront totalement égocentriques, centrés sur eux-mêmes.
Ben oui, mais c'est, je veux dire que la vie en société, je veux dire que ça va être compliqué de vivre en société parce que on peut pas, je veux dire, sa liberté, bon, elle finit à la liberté de l'autre à côté. Hein,
bien sûr.
Donc ça va être compliqué à vivre pour.
Et est-ce que finalement, pour faire réagir ces enfants-là, il faut les punir? Est-ce qu'il faut les sanctionner?
Je crois que c'est pas simplement ces enfants-là, c'est tous les enfants, en fait. Hein. Punir un enfant, c'est l'épreuve de réalité. Je crois que s'il n'y a jamais d'épreuve de réalité, c'est-à-dire que si on menace, enfin, si tu fais pas ça, on menace, mais jamais il y a l'épreuve de réalité, c'est-à-dire qu'un acte, il a des conséquences, c'est-à-dire que si on casse quelque chose, il faut le réparer. S'il n'y a pas la notion de réparation, finalement, qui est plus que, moi, je trouve que la, qui va mieux que la sanction, même si la sanction, bon, c'est une sorte de réparation, ça permet de réparer. Donc, ça permet justement à l'enfant de se sentir mieux après s'il a réparé. Et je crois que, alors, après, il y a la question de quelle punition. Ça, c'est une autre question.
Parce ça que fera l'objet peut-être d'une autre émission. Avant de nous quitter, peut-être citer quelques ouvrages, notamment « Enfant roi, plus jamais ça » de Christiane Olivier aux éditions Albin Michel en 2002. Et un livre dont on parle beaucoup aussi, un livre de Didier Pleu, de « L'enfant roi à l'enfant tyran ». Édition Odile Jacob en 2002 également. Également Alain Braconnier et Marcelli, L'adolescence aux mille visages. Édition également Odile Jacob en 1998. Voilà quelques ouvrages. Peut-être que, je ne sais pas si vous avez des ouvrages à nous conseiller.
Mais je crois qu'il y en a beaucoup. C'est un sujet qui a été beaucoup traité. Donc je pense que dans la librairie, il y a des choses, à mon avis, très intéressantes sur ce sujet.
Rappelez donc en tout cas l'École des parents et des éducateurs de Toulouse. Dont vous êtes la directrice, numéro de téléphone, Sylvie Compagnon.
Ben c'est le 05 61 52 22 52. Voilà.
Voilà. Et
donc
ça
on
se
peut
situe...
appeler tous les. On est au Mazad et en fait on peut appeler tous les jours de 9h à 18h. Voilà.
Et on est bien accueilli.
Ben j'espère.
Oui, je crois. Je suis passé. J'ai été très bien accueilli. Sylvie Compagnon, je vous remercie.
Merci à vous.
À une prochaine émission peut-être. Merci. Au revoir. Et à bientôt.
Au revoir.